Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous, il est 19h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République démocratique du Congo, l'opposition exige des préalables pour les élections de décembre prochain. En Guinée, appel à la grève générale après le blocage des manifestations contre la hausse du prix des carburants à Conakry. Dans nos dossiers du jour, décryptage de la tournée africaine du président chinois Xi Jinping.
Parce que c'est soft, c'est doux, la Chine n'est pas dans le discours directif, n'impose pas des normes de gouvernance. Cela étant dit, on peut quand même mettre un bémol.
Et mise en garde du président américain Donald Trump à l'Iran suite aux avertissements d'Hassan Rouhani dans la Minute Écho. L'autonomisation économique des femmes dans le secteur agricole sénégalais et focus sur la CAN des moins de 20 ans dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, l'opposition désapprouve le discours du président Joseph Kabila, qu'elle qualifie d'insulte à la dignité du peuple congolais et annonce des actions sur le terrain pour appeler au respect de la Constitution. Réunis ce lundi, les principaux partis et regroupements de l'opposition ont par ailleurs rappelé leurs conditions pour des élections démocratiques et apaisées. Des élections qu'ils n'entendent pas boycotter, mais demandent des préalables. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans une déclaration conjointe signée par l'UDPS de Félix Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe, Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, le MLC de Jean-Pierre Bemba et la dynamique de l'opposition que dirige Martin Fayulu, l'opposition qualifie le message à la nation du président Kabila d'un discours totalement déconnecté des réalités de la RDC. Nous l'avons reçu comme une véritable insulte à la dignité du peuple congolais. Le président a dit sa passion pour quel Congo? Un Congo où règne la corruption, le pillage systématique des ressources naturelles? S'est interrogé Delice Sanga, secrétaire général d'Ensemble pour le changement, qui a lu la déclaration. Pour un processus électoral crédible et apaisé, l'opposition rappelle comme condition un fichier électoral fiable, le rejet de la machine à voter, la libération des prisonniers emblématiques et le retour des exilés et le remplacement du délégué de l'UDPS à la CENI. Elle dit par ailleurs non à un prétendu troisième mandat de Joseph Kabila et annonce des actions communes qui seront communiquées incessamment pour imposer le respect de la Constitution et de l'avènement de l'alternance en RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et toujours en République démocratique du Congo, mais cette fois dans l'est du pays, à Beni, les ADF ougandais sont accusés d'avoir égorgé deux civils et d'avoir tué deux autres personnes, selon Donat Kibwana, l'administrateur du territoire de Beni dans le Nord Kivu. Deux autres civils sont portés disparus. Le porte-parole de l'armée dans la région, le capitaine Mac Azouké, a déclaré que les opérations contre les ADF se poursuivent. Le président chinois Xi Jinping a signé 15 accords avec le Rwanda, deuxième étape d'une tournée africaine qui vise à renforcer les liens avec ses alliés sur le continent. Des prêts pour la construction de routes, pour la rénovation d'hôpitaux et pour le développement du nouvel aéroport rwandais figurent parmi ces accords signés. Le président chinois était ce week-end au Sénégal, y concluant également une série d'accords commerciaux. Nous y reviendrons dans la partie magazine. En Guinée, les manifestations contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe se poursuivent pour la troisième semaine consécutive. Les marches d'aujourd'hui ont cependant été empêchées à Conakry. Les syndicats des travailleurs et les organisations de la société civile réclament le prix du litre à 8 000 francs guinéens au lieu de 10 000 francs. Le point avec Zakaria Kamara, correspondant VOA Afrique à Conakry.
L'interdiction des deux marches à l'appel respectivement de la société civile et des syndicats a été annoncée dimanche soir par le gouverneur de Conakry, Mathurin Bangoura. Les policiers ont occupé Matoto dans la banlieue de Conakry où était prévu le lieu pour le départ de la marche des forces sociales de Guinée qui regroupe une vingtaine d'organisations de la société civile qui devait aboutir une dizaine de kilomètres plus loin au stade du 28 septembre. Six manifestants ont été interpellés selon la police qui a dispersé les quelques dizaines de personnes présentes avec du gaz lacrymogène. La police a également fait usage de canons à eau pour disperser la marche des syndicats entre la Bourse du Travail et l'Assemblée nationale dans le centre de la ville. Les syndicalistes se sont ensuite repliés à la Bourse du Travail où ils ont tenu un meeting au cours duquel ils ont annoncé une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Zakaria Camara Conakry, VOA Afrique.
En Somalie, des combattants islamistes Chebab lourdement armés ont attaqué une base militaire du sud du pays, tuant plusieurs personnes. Selon des sources militaires, l'attaque visait la base de Bar Sanguni, à environ 40 km au nord de Kismayo. Les forces armées somaliennes ont repoussé les assaillants, mais des victimes sont à déplorer des deux côtés, a déclaré Mohamed Bilé, un commandant militaire basé sur place. Et des Sud-Soudanais furieux de n'avoir pas été engagés par des organisations humanitaires ont attaqué et pillé les locaux d'une dizaine d'entre elles. C'est ce qu'a rapporté le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, faisant état de deux blessés. L'agence de l'ONU a ajouté que des habitants de la région exigeaient d'être employés par les organisations humanitaires qu'ils accusaient d'avoir recruté du personnel extérieur.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et dans le reste du monde, escalade verbale entre Washington et Téhéran. Le président américain Donald Trump a lancé une mise en garde contre l'Iran qu'il a menacé de représailles apocalyptiques après des propos guerriers de son homologue iranien Hassan Rouhani. Le point avec Nicolas Pineau.
Le tweet nocturne du président américain est tranchant. Ne menacez plus jamais les États-Unis ou vous allez subir des conséquences telles que peu, au cours de l'histoire, en ont connu auparavant, a écrit Donald Trump dans un message adressé nommément au président Rouhani et rédigé entièrement en majuscules. Nous ne sommes plus un pays qui supporte vos paroles, démentes de violence et de mort. Faites attention, a poursuivi Donald Trump. Ce message est intervenu après un avertissement de M. Rouhani aux dirigeants américains, lui conseillant de ne pas jouer avec la queue du lion et assurant qu'un conflit avec l'Iran serait la mère de toutes les guerres. M. Rouhani a en outre de nouveau averti que l'Iran pourrait fermer le détroit d'Ormuz, qui contrôle le Golfe et part ou passe jusqu'à 30% du pétrole mondial transitant par voie maritime. M. Rouhani s'exprimait lui-même quelques heures avant un discours très attendu du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à la diaspora iranienne. Les États-Unis n'ont pas peur de sanctionner au plus haut niveau le régime de Téhéran, qui est un cauchemar pour le peuple iranien, a assuré Mike Pompeo.
Et alors que les avancées concrètes se font attendre plus d'un mois après le sommet avec Kim Jong-un, Donald Trump assure être satisfait de l'avancée des négociations. Aucune fusée n'a été lancée par la Corée du Nord en 9 mois. De la même manière, pas de test nucléaire. Toute l'Asie est heureuse, a-t-il tweeté. Un groupe de près de 400 Syriens composés de casques blancs, les secouristes opérant en zone rebelle et de membres de leur famille ont été évacués par Israël du sud de la Syrie vers la Jordanie dans la nuit d'hier. Ils devraient être transférés dans plusieurs pays occidentaux. Lionel Gaïma.
Le premier ministre israélien a confirmé l'information en personne, soulignant que cette opération a fait suite à une demande du président Trump ainsi que du premier ministre canadien. Israël a diffusé une vidéo des bus qui ont transporté des casques blancs et leurs familles sous la supervision du Tsahal. La réaction de Damas ne s'est pas fait entendre. Les autorités ont qualifié le transfert d'opération criminelle. Les premières informations avaient fait état de l'évacuation de quelques 800 personnes. La chaîne publique CBC a rapporté de son côté que les casques blancs n'ayant pu être évacués ont été invités à quitter la région du sud-ouest de la Syrie car les forces du président Bachar al-Assad sont en train de reprendre cette zone. Le Canada a annoncé dimanche qu'il était prêt à accueillir jusqu'à 50 casques blancs avec leurs familles.
Et en Afghanistan, l'attentat suicide qui a visé dimanche à Kaboul le général Abdul Rachid Dostum, le chef de guerre et vice-président de retour d'exil, a fait au moins 23 morts, 107 blessés, selon un nouveau bilan du ministère de l'Intérieur. Ce bilan pourrait encore évoluer, a précisé le porte-parole du ministère. L'attaque a été revendiquée par les djihadistes du groupe État islamique. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu en Libye pour pousser à la mise en œuvre de l'accord de Paris, un accord qui prévoit des élections en décembre dans ce pays, 7 ans après la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. À Paris, le 29 mai, les responsables libyens se sont engagés à tenir des élections présidentielles et législatives suivant un calendrier précis d'ici la fin de l'année, a-t-il déclaré à l'issue d'un entretien avec le premier ministre du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, à Tripoli. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, se rend mercredi à Washington pour tenter d'empêcher une guerre commerciale totale avec les États-Unis. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et l'actualité économique en Afrique, qu'on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Herman Ongbo.
La directrice exécutive d'ONU Femmes, Flumzile Mlambo Gouka, entame aujourd'hui une visite officielle au Sénégal. Objectif, souligner l'importance de l'autonomisation économique des femmes dans le secteur agricole en vue d'encourager le rapprochement des législations discriminatoires et de promouvoir le leadership féminin. Les agricultrices représentent jusqu'à 70% de la population active et assurent plus de 80% de la production agricole sénégalaise, notamment en culture vivrière. De nouveaux tests de loi pour former le secteur de la microfinance en Afrique centrale, la commission bancaire de la région s'est fixée entre autres objectifs de récapitaliser les établissements de microfinance d'ici à 2021, y compris le renforcement des contrôles internes afin d'assainir un secteur gangréné par de mauvaises habitudes, rapporte Financial Afrique. En Afrique subsaharienne, la croissance économique poursuit sa reprise et devrait atteindre 3,1% à la fin de cette année, avant de se consolider à 3,6% en moyenne sur la période 2019-2020, indique la Banque mondiale. L'Afrique du Sud a atteint en 2017 un volume commercial bilatéral avec la Chine de 39,17 milliards de dollars. Ce montant traduit une augmentation considérable des échanges commerciaux entre les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, a indiqué hier le président chinois Xi Jinping dans une tribune publiée par le site d'information Sunday Independent.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
La Zambie ne défendra pas son titre à la CAN des moins de 20 ans.
Et oui, victorieux 1-0 à domicile à l'aller, les Chipolo Polo Junior ont été surpris hier par le Burundi. Score final 3-0. Le Cameroun aussi ne disputera pas cette CAN des moins de 20 ans. Les Lions Indomptables Junior ont été balayés 3-0 à Bamako par le Mali. Écoutons le coach malien des Aiglons, Mamoutou Kanedi Mourlé.
La clé du match, c'était l'efficacité. On a été plus réaliste que c'est tout. C'est ça mon objectif, être efficace et ne pas inquiéter. Si on doit comprendre ça, je pense qu'on peut comprendre Mourlé. Sinon, c'est très difficile de comprendre Mourlé. Parce que moi, mon football, c'est le réalisme. Si on se base sur le réalisme, on peut aller très loin. Si on fait des beaux jeux et qu'on n'aille pas loin, on est éliminé. Ça aussi, c'est autre chose. Pour le moment, moi, l'efficacité est la meilleure solution. Et je remercie tous les supporters.
Le sélectionneur des Aigles Junior, Mamoutou Kanedi Mourlé, au micro de notre correspondant du service Bambara à Bamako, Siaka Traoré. Bien évidemment, c'est la grosse déception chez les Lionceaux Indomptables qui ont fait preuve d'inefficacité, comme nous l'explique leur entraîneur Ousmane Christophe.
Nous étions venus en espérant se qualifier, mais l'équipe malienne a été plus forte et s'est qualifiée. Donc, le seul bon vent. On n'a pas pu marquer de but. Vous savez, pour gagner la rencontre, il faut marquer de but. C'est tout le collectif. Hein. On n'a pas pu marquer, ils en ont pu marquer tout. Hein. On leur souhaite bon vent.
C'était donc le sélectionneur des Lions Indomptables Junior Ousmane Christophe au micro de Siaka Traoré. Logique respectée à Lagos entre le Nigeria et la Mauritanie. Victoire écrasante des Flying Eagles 5-0. Samedi, le Burkina Faso, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont décroché leur ticket. Le dernier qualifié sera connu le 12 août à l'issue de la double rencontre entre le Bénin et le Ghana. La compétition, elle, est prévue du 2 au 17 février 2019.
La CAF appelle au travail après l'échec des représentants africains au Mondial 2018.
Les pays qui ont représenté l'Afrique à la Coupe du Monde et la CAF se sont réunis le week-end écoulé pour chercher les causes de la pire participation du continent à un mondial depuis 1982. Pour Ahmad, président de la CAF, ce bilan maigre et inquiétant doit inciter les coachs d'expérience, légendes, spécialistes et experts à une remise immédiate au travail en vue de Qatar 2022. Aliou Cissé et Guénotro étaient les seuls sélectionneurs présents à Rabat. Patrice Baumel, l'adjoint, a représenté Hervé Renard pour les Lions de l'Atlas, tandis que l'Égypte et la Tunisie désormais sans entraîneur était présent avec un membre de l'encadrement technique.
Et en Europe, la Fédération allemande rejette les accusations de racisme dans l'affaire Özil.
Nous rejetons catégoriquement le fait que la Fédération allemande de football soit associée au racisme, a assuré l'instance nationale du football allemand dont le président Reinhard Grindel a été mis en cause par le champion du monde 2014 aux origines turques. Mesut Özil a annoncé hier sa retraite internationale accusant notamment ses détracteurs du racisme, en particulier Reinhard Grindel, patron de la Fédération allemande de football.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Raissa Girondin pour les dossiers du jour. Tension politique au Mali à quelques jours du premier tour de la présidentielle. Le candidat Soumaïla Cissé dénonce l'existence d'un fichier parallèle avec plus de 900 nouveaux bureaux de vote. Il accuse le gouvernement et son candidat Ibeka de préparer une fraude massive lors du scrutin de dimanche. Ce lundi, le premier ministre malien tempère et affirme qu'il n'y a qu'un seul fichier électoral. Il se dit prêt à envoyer des représentants de l'opposition en France pour voir le vrai fichier qui se trouve au niveau de l'imprimerie de France qui a confectionné les cartes d'électeurs. Reportage du correspondant de VOA Africa Bamako, Kassim Traoré.
Malgré la campagne et les déplacements des candidats à l'intérieur du pays, certains veillent au gré quant à la bonne organisation du scrutin. C'est le cas du staff de campagne des candidats Soumaïla Cissé qui dénonce une fraude. Soumaïla Cissé, candidat de l'espoir.
Nous avons découvert des milliers de noms en double, en triple, en quadré, même parfois en cinq, en quintuple. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont leur nom au moins cinq fois dans les. Nous avons découvert des bureaux fictifs. Nous avons découvert des centres fictifs. Nous avons découvert des électeurs sans photo. Nous avons découvert des communes entières où le nombre d'électeurs est supposé nul. Nous avons découvert des communes qui ont exactement les mêmes nombres d'électeurs. Nous avons donc découvert un fichier qui est tout sauf un fichier propre.
72 heures après la déclaration du candidat Soumaïla Cissé, le premier ministre réplique en sa manière. Soumaïla Boubey Maïga, après une réunion au niveau de son cabinet.
Je voulais dire sans aucune équivoque qu'il n'y a qu'un seul fichier, c'est celui qui a été audité fin avril, et sur la base duquel les listes électorales, les cartes d'électeurs ont été, ainsi que les cartes d'électeurs ont été imprimées. Et c'est ce fichier qui a aussi été mis sur Internet. Et j'invite tous les électeurs à consulter dès aujourd'hui les listes électorales qui sont maintenant affichées et tout le monde pourra constater qu'il n'y a pas de lecteur fictif dessus.
L'opposition pense que cette fraude a été planifiée il y a longtemps et ne donne aucune garantie au scrutin du 29 juillet prochain. Soumaïla Cissé, candidat de l'URD.
Nous avons vu les prémices déjà en 2016 avec les élections communales trafiquées. Nous avons vu des cas spécifiques comme celui dans Songo. Nous avons vu des bulletins pré-votés. Nous avons vu le mouvement extraordinaire des préfets et des gouverneurs. C'est très grave. Notre démocratie est en péril et manifestement, nous avons affaire à un président qui triche. Nous avons affaire à un gouvernement qui triche. Il est important que le peuple malien sache que nous sommes en train d'aller à des élections qui ne sont loin d'être crédibles.
Le Premier ministre a demandé au ministre de l'administration territoriale d'organiser une rencontre de concertation avec la partie plaignante. Il propose même que ceci aille en France voir la véracité du fichier unique.
Je lui ai demandé d'inviter les candidats qui contestent à s'accorder sur deux personnes de leur confiance que nous pourrions envoyer pour l'imprimerie nationale de France qui détient encore le fichier audité dans ses coffres pour consulter ce fichier et le confronter avec le fichier que nous avons mis sur l'internet. Nous allons ouvrir à l'observation de toutes les phases de l'élection.
En tout cas, à 6 jours du scrutin, la polémique autour du fichier électoral s'enflamme à Bamako et chacun y va de sa version. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, le président de l'Union pour le Progrès et le Changement, l'UPC, Zéphirin Diabré, a été reconduit dimanche à la tête du principal parti d'opposition burkinabé en vue de l'élection présidentielle de 2020. Diabré a fixé le cap. Félicitations, que notre parti soit installé à Kossiam, palais présidentiel, en 2020. En attendant, l'UPC est miné par un conflit interne avec une bonne dizaine de ses députés qui ont fait dissidence. Pour une analyse, Bagassi Koura a fait à joint l'analyste politique Siaka Koulibaly.
Le congrès de l'UPC qui s'est tenu récemment marque une étape de la stratégie de ce parti pour les échéances électorales de 2020, en cela qu'il permet de faire un bilan de la situation et de la gestion du pays par le gouvernement actuel, afin d'en tirer des arguments électoraux basés sur du réel pour 2020 et ayant une emprise politique également sur l'étendue du territoire. Il y avait également des aspects de gestion interne du parti, en particulier la question des députés frondeurs, qui permettait d'assainir quelque peu les structures du parti afin de permettre à d'autres responsables d'occuper des espaces laissés libres par les députés qui se sont mis en marge de ce parti-là. Et aussi permettre au président du parti qui détient un profil particulier sur les questions économiques d'affûter quelques armes en se basant sur les échecs ou ce qui est considéré comme des échecs de la part du gouvernement Kabore qui est en place depuis 2016.
Sur la question des dissidents notamment, qu'est-ce qui a été arrêté? Est-ce qu'on va les réintégrer ou on tourne la page?
Non. À écouter l'intervention du président du parti à l'ouverture du congrès, la tendance semble être de ne pas réintégrer les députés frondeurs. Au demeurant, je pense qu'ils ont été remplacés dans les structures dirigeantes du parti. Donc le parti se retient de les exclure pour ne pas, conformément à la loi régissant les partis politiques, ne pas leur permettre d'aller se mettre dans d'autres partis, parce que tant que l'UPC ne les exclut pas, ils continuent à garder le mandat. Et il ne peut pas aussi aller avec le mandat dans une autre partie. Mais à l'intérieur, je pense que la grande tendance est de ne plus les récupérer, en particulier à cause de leur base même, qui était déjà très volontaire pour les remplacer.
Alors, le fait de voir l'UPC s'associer au parti de Blaise Compaoré dans la même opposition, alors que ce parti continue de réclamer le retour de l'ancien président chassé du pouvoir, est-ce que cela ne va pas jouer sur leur chance en 2020?
Je pense que, comme on est en politique, il n'y a quasiment pas de sujet tabou. Et on sait déjà que le CDP a rejoint le CFOP, le chef de l'opposition politique, et que là, il cohabite avec les partis avec qui il était en opposition violente, en quelque sorte, hein, avant donc, le soulèvement populaire de 2014. Donc, du moment où le CDP a intégré l'opposition politique, et qu'il agit à côté des partis avec qui il était en opposition par le passé, je pense que la question électorale n'est qu'un détail ou une étape supplémentaire à franchir.
C'était Siaka Koulibaly, joint à Ouagadougou.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et après le Sénégal, le président chinois Xi Jinping est au Rwanda avant de se rendre en Afrique du Sud où doit se tenir cette semaine le sommet des BRICS. Cette tournée africaine du président chinois est l'occasion pour Beijing de confirmer son offensive diplomatique et commerciale envers le continent. Il a promis une relation gagnant-gagnant avec l'Afrique, mais que signifie ce voyage de Xi Jinping sur le continent? Abdourahmane Dia a posé la question à Adama Gueye, journaliste et auteur du livre Chine Afrique, le dragon et l'autruche.
C'est une chose presque prévisible, on peut s'y attendre. Et la Chine tient au Sénégal parce que ce n'est pas certainement un pays très riche jusqu'à présent en ressources naturelles, mais politiquement et diplomatiquement, c'est un pays d'influence, pour ainsi dire. Et la Chine a besoin de pousser son agenda politique le plus important, qui est celui d'une seule Chine incluant Taïwan. Pour ce qui est du Rwanda, là aussi c'est normal. La Chine montre qu'elle s'intéresse à l'ensemble du continent et en allant voir le président Kagame, qui est à la tête d'un État qu'on peut comparer à la Chine, un État développemental, un État d'ordre, d'autorité.
La Chine est très présente au Sénégal dans plusieurs domaines, mais quand on compare, disons, le volume d'investissement dans des pays anglophones comme le Kenya, l'Afrique francophone était un peu à la traîne. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière de se rattraper ou en tout cas de montrer que la Chine sera bien présente dans le monde francophone en Afrique?
80% des investissements chinois depuis son retour sur le continent à partir du début de ce siècle sont allés vers des pays riches en ressources naturelles. Ils sont quatre, c'est l'Angola, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria et c'est le Soudan. Que ce soit le Kenya, que ce soit le Sénégal ou autre, ce sont des investissements assez faibles de manière générale.
Alors le président Xi Jinping parle de rapport gagnant-gagnant. Est-ce que l'Afrique gagne vraiment dans cette affaire?
Écoutez, dans le discours, oui, parce que c'est soft, C'est d'où la Chine n'est pas dans le discours directif, n'impose pas des normes de gouvernance, de transparence. Cela étant dit, on peut quand même mettre un bémol en disant, attention, dans ces rapports gagnant-gagnant, il y a une partie qui gagne davantage. Or, cette partie qui gagne, c'est la Chine. Jusqu'à présent, la Chine a reproduit un modèle néocolonial en prenant des ressources naturelles du continent africain pour les traiter en Chine et les renvoyer sur le continent en produits manufacturés.
Et les Occidentaux dans tout cela, est-ce qu'ils doivent avoir peur quand on voit par exemple les États-Unis mettre en garde contre ce qu'ils appellent une dépendance, les risques de dépendance de l'Afrique envers la Chine, notamment sur le plan financier?
Oui, la question est réelle, il faut la poser. Il y a un début de surendettement, de surchauffe des économies africaines provoqué par des tentations de création d'une inflation liée à des financements politiquement motivés que la Chine accorde dans des conditions obscures aux pays africains.
C'était le journaliste Adam Agué, joint à Dakar. Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à Sims Loumami à la mise en onde, de Wojtek Zorniak à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actu. Excellente suite de programme.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 9 juillet, le président érythréen Isaias Afwerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont décidé de résoudre les différends entre leurs deux pays en signant un accord de paix qui mettra fin à deux décennies d'hostilité. Pendant 5 ans après que l'Érythrée a obtenu par référendum son indépendance de l'Éthiopie, les deux pays ont eu des relations cordiales. Mais, en 1998, une dispute frontalière s'est muée en une vicieuse guerre qui a fait plus de 80 000 morts. Les hostilités ont cessé en l'an 2000, mais les deux pays ont maintenu un face-à-face militaire dans le territoire litigieux. En plus de mettre un terme aux hostilités de longue date, un accord de paix aurait d'importants bénéfices pour les deux nations. Un pays enclavé, l'Éthiopie pourrait accéder aux ports érythréens d'Assab et de Massawa sur la mer Rouge, sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées de l'Asie à l'Europe en passant par le canal de Suez. Pour sa part, l'Érythrée aurait la possibilité d'améliorer son économie sévèrement mise à mal par la guerre avec l'Éthiopie et bloquée par l'impasse subséquente. C'est un pays isolé dont nombre des ressortissants ont émigré. Les États-Unis se félicitent de l'engagement du 9 juillet pour la paix et la sécurité entre l'État de l'Érythrée et la République fédérale démocratique d'Éthiopie qui met fin à 20 ans de conflit, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration écrite. Nous félicitons le premier ministre Abiy d'Éthiopie et le président Isaias Afwerki d'Érythrée pour avoir courageusement mené leur peuple vers la paix, la prospérité et les réformes politiques. La normalisation des relations et l'adoption d'une déclaration conjointe de paix et d'amitié entre l'Érythrée et l'Éthiopie permettront à leur peuple de se concentrer sur leur aspiration à des liens politiques, économiques et sociaux plus étroits, a souligné le secrétaire d'État Pompeo. Les États-Unis sont prêts à soutenir ce processus et encouragent toutes les parties à continuer de travailler dans la transparence et la confiance dans les jours à venir. La paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée renforcera la stabilité, la sécurité et le développement dans la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
bienvenue à bord.
Les passagers